Vous écoutez France Inter, il est 19h. Le journal avec vous, Frédéric Barrère. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Dans l'actualité ce soir, Yannick Jadot, Sandrine Rousseau en lice pour le second tour de la primaire écologiste. Un duel entre deux lignes opposées. Chaque candidat s'est exprimé pour montrer que la famille écologiste est plus unie que par le passé. Yannick Jadot arrivé en tête au premier tour.
On s'est énormément respecté pendant cette primaire. On peut avoir des sensibilités différentes. Ça va rester pour le second tour. Ça va rester un second tour d'idées qui veut rassembler à la fin la famille écologiste parce qu'on sait la gravité de la situation et on sait notre responsabilité de gagner en avril 2022.
Et nous rejoindrons Laurence Perron au pavillon des Canaux dans ce journal. La crise des sous-marins et un échange téléphonique est prévu dans les prochains jours entre Emmanuel Macron et Joe Biden. La France, toujours en colère, attend des clarifications. Les excuses ne suffiront pas. Nathanaël Charbonnier dans un instant et nous irons à Washington avec Sébastien Paour où la diplomatie est à l'œuvre depuis le début de la crise. Bientôt peut-être un pass sanitaire local. Le gouvernement réfléchit, indique le porte-parole Gabriel Attal, à adapter le dispositif en fonction de la situation locale. Un conseil de défense sanitaire est prévu dans la semaine. Dans ce journal également, dernier dimanche de campagne en Allemagne et dernier débat ce soir entre les trois principaux candidats à la succession d'Angela Merkel et la journée sans voiture à Paris et dans plusieurs ville en France. Vos rendez-vous du 19h avec la page sport, au menu du football et le match PSG-Lyon ce soir. Vous entendrez Arsène Wenger qui milite pour une Coupe du Monde de foot tous les deux ans. Et en rugby, on reviendra sur un plaquage insensé hier lors du match Castres-Bègles-Bordeaux. Et on s'intéressera à la réception lundi dernier à l'Élysée des médaillés olympiques et paralympiques avec un discours d'Emmanuel Macron dont on parle beaucoup encore aujourd'hui. Notre page sport avec les temps forts de l'actualité de la semaine qui vient. Et puis bien sûr notre rendez-vous du dimanche soir, c'est mon actu, Sandrine Houdin et la soirée des trophées des chiens héros 2021. La météo, de la pluie sur le centre du pays. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Bonsoir, je m'appelle Orlan, j'ai 11 ans. J'aimerais bien savoir quel est le premier animal qu'on a mis au zoo. Merci, au revoir.
Les petits bateaux, après ce journal.
France Inter.
La crise des sous-marins, toujours très aiguë et après le choc et la colère de Paris et le rappel des ambassadeurs aux États-Unis et en Australie, un geste est venu de Washington. Dans ce tumulte diplomatique, le président Joe Biden a demandé à parler à Emmanuel Macron. Un entretien téléphonique entre le président américain et le président français est donc prévu dans les prochains jours. La France ne supporte pas que les États-Unis aient sabordé le contrat passé avec l'Australie pour l'achat de sous-marins. Les États-Unis espèrent que leur plus vieil allié français comprendra leur position. Et la diplomatie est à l'œuvre depuis mercredi entre Paris et Washington. En direct de Washington, on retrouve notre correspondant Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Les tensions durent depuis maintenant 5 jours.
Oui, tout commence mercredi matin quand la presse, notamment australienne, annonce l'alliance baptisée AUKUS. L'ambassadeur, ici Philippe Etienne, tente de joindre le chef de la diplomatie américaine, mais Anthony Blinken n'est pas disponible. En début d'après-midi, Paris comprend que le contrat est déchiré. Jean-Yves Le Drian parle de coups dans le dos, de méthode à la Trump. Et voici le commentaire de la porte-parole de la Maison-Blanche le lendemain, quand un journaliste lui demande ce que Joe Biden pense de la comparaison.
I would say the president doesn't think about it much.
Je dirais que le président ne s'en préoccupe pas tellement. Jen Psaki balaye la question, sous-entendu. C'est la Chine qui intéresse l'Amérique dans la région Indo-Pacifique et la France ne compte pas vraiment. Au quasi-mépris succède un peu de compréhension. L'ambassadeur est finalement reçu par Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale. Première fois que Biden, depuis que Biden est en fonction. Il y retourne vendredi pour lui expliquer la raison de son rappel à Paris. On parle de choc de sources diplomatiques ici. La réception est prévue le soir à la résidence pour fêter l'une des batailles clés remportées en 1781 par les Américains avec l'aide des Français lors de la guerre d'indépendance. La réception est annulée. La France n'a plus d'ambassadeur aux États-Unis pour la première fois en 240 ans. Mais la Maison-Blanche et l'Élysée devraient donc se parler bientôt. Cet après-midi, ici, Biden fait du vélo et il ne répond pas aux questions des journalistes sur ce coup de fil.
Sébastien Paour en direct de Washington, merci. Et donc, côté français, Emmanuel Macron attend des clarifications sur ce que la France considère comme une rupture de confiance majeure et la crise est profonde, Nathanaël Charbonnier.
On aimerait bien être la petite souris
qui va assister à l'échange téléphonique entre les deux présidents. Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron ne se contentera pas d'un simple mot d'excuse du genre « je suis désolé ». Car pour l'Élysée, la séquence qui vient de se jouer n'a rien à voir avec un désaccord commercial. Non, l'affaire est bien plus profonde. Il s'agit pour Paris d'une trahison commerciale à laquelle s'ajoute une trahison d'ordre stratégique réalisée par un ami et un allié. Une trahison qui vient s'ajouter à une liste de défaillances américaines, la Syrie en 2013, le dossier iranien ou encore dernièrement, la façon dont ils ont quitté l'Afghanistan sans tenir compte de leurs alliés. C'est ainsi que l'échange qui aura lieu entre les deux présidents ne portera pas que sur l'Australie. Il sera question de savoir si la France peut toujours compter sur les États-Unis et s'il reste un partenaire fiable. Par exemple, est-ce que les États-Unis interviendraient avec les Français en cas d'invasion de l'Ukraine ? Ou encore, est-ce que l'OTAN reste une organisation sur laquelle les Européens peuvent compter ? On le voit, la discussion qui s'annonce n'a rien à voir avec un simple coup de fil d'excuses. Dans tous les cas, il y aura un avant et un après crise australienne. Avec une certitude, cela va renforcer la volonté française de repenser sa défense, si possible avec les Européens, et l'élection présidentielle qui arrive en France sera une bonne occasion de mettre le sujet sur la table.
Nathanaël Charbonnier. Jadot, Rousseau. Le verdict du premier tour est tombé lors de la primaire écologiste. Yannick Jadot arrive en tête avec 29 534 votes. Sandrine Rousseau recueille 26 801 voix. Delphine Bateau, Éric Piolle et Jean-Marc Governatori sont éliminés. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Et un second tour donc à la fin du mois entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot.
Eh ben voilà, vous l'avez entendu, c'était au bar de la Belle Vie, ça ne s'invente pas. On aurait même pu croire que Sandrine Rousseau avait déjà gagné.
Au deuxième tour de cette primaire sera présente une écologie radicale, une écologie sociale, une écologie inclusive, une écologie pour tous et toutes. Et c'est nous qui la porterons.
Deux petits points et quelques poussières, c'est par l'écoféministe Rousseau de l'eurodéputé Yannick Jadot, arrivé lui véritablement en tête, avec près de 28% des votants.
L'écologie est la seule alternative enthousiasmante, responsable, face à Emmanuel Macron, dont on sait le quinquennat de renoncement sur le climat, de régression sociale. On n'imagine pas l'arrivée de Marine Le Pen, une sorte de mélange woke entre Orban, Kaczynski, Bolsonaro et Trump. Mais surtout, on a une responsabilité, vous le savez. On a la responsabilité d'éviter le statu quo.
Delphine Bateau, avec un joli score de plus de 23 000 suffrages, a relégué le maire de Grenoble, Éric Piolle, pourtant favori de la direction d'Europe Écologie Les Verts, à la quatrième place. Elle ne donne pas de consigne de vote. La balle est donc désormais dans le camp des piolistes, aujourd'hui faiseurs de rois ou de reines écolo.
Laurence Perron, merci, avec Frédéric Kérou. Après l'optimisme d'Olivier Véran face à l'épidémie de coronavirus en régression constante, le ministre de la Santé indiquait ce matin « Nous sommes sur la bonne voie, nous voulons que les Français puissent respirer ». La question d'un pass sanitaire local est désormais en réflexion, comme l'a indiqué Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Un conseil de défense sanitaire est prévu mercredi prochain et une levée partielle des contraintes liées au pass sanitaire sera à l'ordre du jour, Simon Le Baron.
C'est Emmanuel Macron lui-même qui avait évoqué par deux fois cette semaine ce pass sanitaire local. Gabriel Attal et Olivier Véran confirment donc que l'exécutif travaille bien sur une stratégie territorialisée. Ce ne serait pas une première dans cette crise. On se souvient des confinements et couvre-feux locaux imposés il y a quelques mois. L'Élysée attend donc désormais les propositions du ministère de la Santé. Faut-il lever complètement le pass dans la trentaine de départements où le taux d'incidence est repassé en dessous des 50 cas pour 100 000 habitants? Faut-il supprimer le pass par palier, d'abord pour les lieux de culture par exemple, puis dans un second temps pour les bars et les restaurants? C'est le président qui tranchera. En attendant, les conseillers de l'exécutif se perdent en conjectures et s'inquiètent pour certains d'une nouvelle usine à gaz. Attention, avertit aussi un proche de Jean Castex, à ne pas se laisser emporter par l'euphorie. On va clairement vers un allègement des contraintes, mais il sera progressif. Le gouvernement veut conserver certaines armes au cas où un nouveau variant viendrait à faire repartir l'épidémie.
À l'étranger, en Allemagne, dernière chance de briller ce soir à la télévision pour les trois principaux candidats à la succession d'Angela Merkel. C'est le dernier dimanche de campagne pour les législatives en Allemagne. Et ce soir, c'est le dernier débat télé. Le social-démocrate Olaf Scholz, le conservateur Armin Laschet et la candidate verte Annalena Baerbock confronteront leurs idées. Dans les sondages, c'est le social-démocrate Olaf Scholz qui fait toujours figure de favori. Les Verts, autrefois favoris, se battent maintenant pour garder garder leur troisième place face aux libéraux et faire partie d'une possible coalition. Hugo Flotatalon.
Déterminant parce que près de 40% de l'électorat se dit encore indécis à 7 jours du vote. Il faut convaincre donc, martèlent les candidats. Ils savent que tout est encore possible dans une élection plus ouverte que jamais. Car certes, le candidat social-démocrate du SPD, Olaf Scholz, est toujours donné en tête des sondages à 26%, mais avec 5 points d'avance seulement sur les conservateurs et leur candidat, Armin Laschet, qui laisse entendre partout qu'il est possible de faire repasser son camp en tête. Pour cela, Armin Laschet tentera certainement tout à l'heure de mettre en difficulté Olaf Scholz, actuel ministre des Finances, apparu jusqu'ici plutôt calme, sûr de lui, expérimenté, le profil rassurant. Au milieu, la candidate écologiste Annalena Baerbock, troisième dans les sondages, devrait-elle tenter de renvoyer ses deux concurrents dos à dos, leur rappelant que leurs partis sont en ce moment au gouvernement et que face au changement climatique, seuls les Verts sont désormais, selon elle, à même de prendre le destin de l'Allemagne en main. Bonne, Hugo Flotatalon, France Inter.
En Israël, près de deux semaines après l'évasion spectaculaire de 6 prisonniers palestiniens d'une prison de haute sécurité, les deux derniers fugitifs ont été arrêtés en Cisjordanie lors d'une opération de l'armée israélienne. Une évasion rocambolesque. Les 6 palestiniens condamnés à des peines de prison à perpétuité avaient réussi à creuser un tunnel sous l'évier de leur cellule. Les 6 évadés, qualifiés de héros côté palestinien, étaient devenus les hommes les plus recherchés par Israël. Sur place à Jérusalem, Michel Paul.
Les deux derniers fugitifs, Aïcham Kamadji et Mounadel Infeyat, tous deux membres du djihad islamique, ont été capturés à Jenin, une zone de Cisjordanie sous contrôle sécuritaire palestinien, une opération qui a donné lieu à un important déploiement de forces militaires israéliennes qui, selon un porte-parole, ont essuyé des jets d'explosifs et de pierres. Les deux hommes, qui n'étaient pas armés, se sont rendus sans résistance après que les troupes ont encerclé le bâtiment à l'intérieur duquel ils se trouvaient. Les 4 autres fugitifs ont été capturés dans les jours qui avaient suivi la grande évasion du pénitencier de haute sécurité en Galilée. Le premier ministre israélien Naftali Bennett s'est félicité de ce qu'il a qualifié d'efficacité et de rapidité des recherches. Une commission d'enquête indépendante a été nommée pour trouver les responsables des lacunes de l'administration pénitentiaire israélienne révélées par les médias. Et en attendant, des équipes spécialisées sont à la recherche d'autres tunnels dans toutes les prisons en Israël. Jérusalem, Michel Paul, RFI, pour France Inter.
En France, vous l'avez sans doute remarqué, des rues apaisées. Aujourd'hui à Paris, nouvelle journée sans voiture pour la 7e année dans la capitale. Journée également sans voiture à Angers, Bordeaux, Clermont-Ferrand ou Strasbourg. Place au vélo aujourd'hui dans ces villes. Et pour la première fois, l'expérience a été menée à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Reportage Farida Noir.
D'habitude, l'avenue Jean-Lolive à Pantin.
C'est bruyant, c'est pénible.
Et aujourd'hui.
Là, c'est merveilleux. Il n'y a pas de bruit, c'est tranquille.
Afid a sorti son vélo pour l'occasion. Il savoure sa balade sans coup de klaxon et pot d'échappement. Mais pour autant, ça ne lui donne pas envie de lâcher le scooter qu'il utilise tous les matins pour aller travailler.
Je suis à l'opposé de Paris. Aller en vélo, c'est un peu compliqué.
Pourquoi vous n'utilisez pas les transports en commun?
Parce qu'il y a trop de monde. En fait, c'est les aléas de la vie qui font que on repasse en fait peut-être du mauvais côté.
Michel et son mari savourent aussi le calme.
Je suis allée prendre un café tout à l'heure. Il m'a dit « Ah, c'est bien, une journée sans voiture, j'ai pas de klaxon, j'ai pas de bruit de voiture. »
Elle aimerait que l'expérience se réitère, mais...
Il y a quelques ajustements à faire, vous voyez, de ce style-là.
Un scooter qui passe.
Et voilà.
Il n'y a pas le droit.
Des voitures qui franchissent.
Mais Jacques et Chantal, eux, ne se laissent pas séduire aussi facilement par le concept. Pour eux, c'est de la poudre aux yeux.
Le calme, c'est appréciable, c'est vrai. À part ça, on va gagner quoi?
Sur une petite journée, pour vous, ça signifie rien?
Trois fois rien.
Faire une journée sans voiture, c'est quoi? C'est un caillou de jeter dans une rivière. De toute façon, on a déjà pollué cette planète. L'être humain lui-même a fait son mal. Ça ne sert à rien du tout. C'est trop tard maintenant.
Pas trop tard pour la mairie qui s'inspire encore une fois de Paris. La circulation sera ainsi limitée à 30 km/h à partir de demain à Pantin.
Avant, journée sans voiture à Pantin avec Farida Noir. (rire) 19h14 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Jean-Pierre Blimaud.
Bonsoir Frédéric.
Et l'actualité sportive nous amène au stade Vélodrome de Marseille.
Où ça va fort pour l'OM en ce début de saison. Après un match prometteur à Moscou jeudi soir en Ligue Europa, Marseille recevait Rennes en fin d'après-midi. Dominique Poulain, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre.
Le match vient de se terminer. L'OM exact au rendez-vous, monte même deuxième au classement.
Oui, effectivement, hein, l'OM cet après-midi, eh bien, a asphyxié, hein, a sorti les griffes et asphyxié les Rennais. L'OM s'impose logiquement et avec la manière 2-0, avec un premier but inscrit par Bamba Dieng à la 48e minute. C'est son troisième but, hein, pour le jeune attaquant en trois apparitions. Le deuxième but est marqué par Amin Harit. Son premier but en Ligue 1 en deux apparitions sous le maillot Olympia. Vous l'avez dit, eh bien, Marseille confirme son bon début de saison. Après cinq matchs, l'OM est toujours invaincu et se hisse à la deuxième place de la Liga, à deux points seulement du Paris Saint-Germain.
Des sourires dans les tribunes, mais aussi de la tristesse à Marseille, puisqu'un supporter historique, René Malville, est décédé. On l'a appris aujourd'hui, une figure à la Pagnole, on pourrait le dire, et qui n'avait pas sa langue dans sa poche, et un personnage ultra connu, hein, de tous les fans de l'Olympique de Marseille, Dominique.
Ouais, effectivement, et on peut penser que les Marseillais vont dédier cette victoire à René Malville, le supporter emblématique de l'Olympique de Marseille, décédé ce matin. Il se battait depuis plusieurs semaines contre un cancer du pancréas et du foie. Il était originaire de Carcassonne, fils de policier. Il était arrivé à l'âge de 9 ans à Marseille. C'était un grand fan de l'OM, un amoureux de cet Olympique de Marseille. Et René Malville était surtout connu pour ses coups de gueule, pour sa verve unique et son franc parler. René Malville avait 73 ans.
Merci Dominique Poulain, donc en direct du Stade Vélodrome de Marseille. À Lens, on s'attend à de lourdes sanctions après les débordements d'hier au Stade Bollaert. Des échauffourées entre supporters et surtout l'envahissement du terrain à la mi-temps par des supporters lensois. 6 blessés légers, des interpellations. La commission de discipline de la Ligue de football se réunira en urgence demain.
Et le football ce soir, c'est aussi une affiche au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain reçoit Lyon et Léo Messi est très attendu pour sa première au Parc devant ses supporters.
Alors l'Argentin a déjà joué deux fois pour le PSG, une demi-heure à Reims en championnat, un match entier mercredi en Ligue des Champions à Bruges. Bonsoir Alexandre Vaux.
Bonsoir Jean-Pierre.
Cette fois, le milieu argentin va se produire, on peut le dire, pour la première fois devant son public.
Se produire, c'est le bon terme, effectivement, car le génie argentin, vous le savez, est une vraie rockstar. Vous vous souvenez des scènes de liesse lors de son débarquement en France il y a 40 jours pour signer avec le PSG un contrat de 110 millions d'euros sur 3 ans. Beaucoup de monde déjà autour du stade, qui sera plein bien sûr ce soir. Même la tribune de presse, hein, avec plus de 250 journalistes et photographes venus du monde entier. Lionel attendu comme le Messi, d'autant que les fans parisiens ont été déçus. Vous l'évoquiez de la première de la MNM, Messi, Neymar, Mbappé mercredi en Ligue des Champions avec ce match nul à Bruges. Le meilleur joueur du monde, c'est donc ce qu'il lui reste à faire face à Lyon pour réussir sa première devant ses supporters. La victoire et pourquoi pas Jean-Pierre, un but qui serait la cerise sur le gâteau.
Merci Alexandre Vaux, Parc des Princes.
Et en exclusivité pour Radio France, Arsène Wenger précise son point de vue sur l'avenir du football et les prochaines Coupes du Monde, et il le dit à France Inter.
Oui, l'ancien manager d'Arsenal, devenu directeur du développement du football à la FIFA, milite pour l'organisation d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. Le sujet fait polémique, plusieurs voix, notamment en Europe, se sont élevées contre ce projet, mais Arsène Wenger précise ses arguments au micro de Nathalie Nianetta.
Ce que je propose, et je pense que le respect des fans passe par là, le respect des supporters passe par là, c'est de ne leur proposer que des compétitions qui ont un sens, qui ont une importance et dans laquelle ils peuvent s'identifier. Nous avons consulté 30 000 fans dans le monde entier, par un organisme indépendant, par section d'âge aussi. Pour l'instant, en Europe, vous avez toutes les semaines des grandes compétitions, des grands championnats. Mais dans tout le reste du monde, ils n'ont pas de compétition de qualité. Quand une nation aura une chance de jouer plus souvent la Coupe du Monde, elle va faire quelque chose pour son football dans son pays.
Le monde du rugby est en émoi, Jean-Pierre, à la suite d'un plaquage insensé et très violent qui aurait pu tourner au drame à l'occasion du match de Top 14 entre Castres et Bordeaux-Bègles.
Oui, l'image fait parler depuis hier, le plaquage dangereux du castré Rino Pieters sur le bordelais Maxime Loukou. Pieters a présenté ses excuses mais passera en commission de discipline avec une lourde sanction en vue. Au-delà de son cas, Fanny Le Chevestrier, ce plaquage relance le débat sur la sécurité des joueurs de rugby.
Mais il peut le tuer, a réagi hier soir Christophe Urios, le manager de Bordeaux, faisant écho à la colère sur les réseaux sociaux d'Olive Eman. Personne ne doit risquer sa vie sur un terrain de sport. L'ancien international appelle à une prise de conscience. Pour lui, cela passe par plus de sévérité en cas de jeu dangereux, avec même des pénalités financières. Mais au-delà des sanctions après coup et donc trop tard, se pose à nouveau la question des règles de plaquage et surtout de leur apprentissage. En France, il a fallu attendre le décès de plusieurs joueurs pour que des initiatives soient lancées dans les clubs pour mieux former les jeunes. Mais aujourd'hui, ce combat doit aussi être pris à bras accord par World Rugby, l'institution qui gère le rugby mondial. Sans cela, eh bien, on continuera à voir à la télévision des plaquages qui font peur plutôt que du beau jeu qui attire les licenciés.
Merci Fanny. La troisième journée du Top 14 s'achèvera ce soir avec Toulon et le Stade français qui s'affronteront avec un bel hommage rendu à Christophe Dominici, l'ancien joueur des deux clubs décédé il y a près de 10 mois.
Et on va revenir maintenant sur une réception à l'Élysée qui a fait grincer des dents de certains sportifs et de médaillés olympiques. Lundi dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu les médaillés olympiques et paralympiques de Tokyo pour leur remettre la Légion d'honneur ou l'Ordre du Mérite, mais on retiendra le discours prononcé par le chef de l'État sur le modèle qu'il veut appliquer à la haute performance, au sport qui ramène le plus de médailles et qui contribue à faire briller la France. Il faudra faire beaucoup plus à Paris en 2024, a déclaré Emmanuel Macron, parce que ce sont nos Jeux à la maison. L'objectif est d'intégrer le top 5 du classement olympique. Certains sportifs ont eu le sentiment de recevoir un savon. Le discours a fait beaucoup réagir. C'est le long format de ce soir, signé Guillaume Batin.
Emmanuel Macron prend comme référence le modèle britannique, placé entre les 2e et 4e places au rang des nations des 4 dernières Olympiades et Paralympiades.
Concentrer nos efforts sur les profils et les disciplines à fort potentiel pour éviter de disperser les crédits sur une cible trop large et donner plus de leviers aux meilleurs.
Un modèle élitiste qui ne plaît pas à Emmanuel Bonnet-Houlage, la présidente de la Fédération sportive et gymnique du travail.
Oui, l'Angleterre a réussi à augmenter de manière très significative le nombre de médaillés dans un certain nombre de disciplines. En revanche, l'héritage de Londres est très mauvais en termes d'accès au sport pour tous.
L'idée n'est pas de privatiser le sport de haut niveau, selon la présidente du Comité national olympique et sportif français, Brigitte Henriques.
Non, absolument pas. Là, c'est vraiment juste de dire, voilà, il faut se challenger, il nous reste 3 ans et qu'est-ce qu'on fait? Ben, du coup, on met vraiment les athlètes dans les meilleures dispositions, que ce soit ceux de la haute performance ou les autres. L'idée, voilà, c'est d'être solidaire, de s'entraider les uns les autres, que tous les acteurs, que ce soit l'ANS, le CNESF, l'accompagnement des fédérations, également avec Paris 2024, avec bien sûr Marie-Amélie Le Fur. On a vraiment un rôle à jouer tous ensemble, le ministère des Sports, de l'Éducation nationale. On a besoin d'être plus unique que jamais pour réussir ce défi-là.
Pour le député de gauche, Régis Juanicot, le chef de l'État fait son autocritique. Son quinquennat n'a pas permis à la France de remonter au rang des nations.
Est-ce qu'il n'est pas trop tard, 3 ans avant Paris 2024, pour tirer les sonnettes d'alarme? C'est ça, c'est un petit peu la question. Et je pense un petit peu à l'interrogation devant le discours du président de la République lundi, et qui avait des tonalités un petit peu de la campagne présidentielle de 2017. On revenait un petit peu à la Startup Nation. Je ne crois pas que ça corresponde au modèle sportif français, ni même de s'inspirer de modèles britanniques qui ne sont pas forcément transposables, ni en termes de financement, ni en termes de performance en France.
Pour Philippe Bana, le président de la Fédération française de handball, on peut aussi bien décrocher des médailles, comme le font les équipes de France de hand depuis près de 30 ans, et en même temps voir augmenter le nombre de licenciés.
On s'intéresse autant à notre activité dans l'école, dans les quartiers difficiles, dans les aspects sociaux, d'éducation, de santé, avec le baby hand, le hand fit, tout ça, qu'à nos médaillés olympiques qui sont formidables et qui donnent le sens de ce goût de venir faire de la pratique sportive. Il y a autant d'importance à avoir des locomotives que des wagons sportifs derrière nous.
Emmanuel Macron veut voir la France entrer dans le top 5 des nations olympiques. Cela ne s'est produit qu'à 5 reprises en 32 Olympiades. La dernière fois en 1996 à Atlanta.
Objectif top 5 pour Paris 2024, Guillaume Batin.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine, et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient. Et à noter, demain, à l'agenda présidentiel, Emmanuel Macron préside une réception à l'Élysée à la mémoire des harkis. Concernant la course à la présidentielle, la semaine qui vient est à droite. Rendez-vous chargé. Lundi, déjeuner entre Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle. Réunion du bureau politique mardi du Parti Républicain pour valider les options de désignation. Jeudi, Valérie Pécresse est à la télé dans l'émission politique sur France 2. Et puis samedi, le congrès du Parti Les Républicains avec vote sur son système de départage des candidats pour la présidentielle. Mardi, a noté à l'Assemblée nationale le projet de loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure, redémarrage des travaux par les députés d'un projet de loi qui touche le régime d'irresponsabilité pénale en lien avec l'affaire Sarah Halimi. Mardi également, les 20 ans d'AZF, l'usine chimique qui a explosé explosé à Toulouse, faisant 31 morts et des milliers de victimes. Sur l'agenda judiciaire, à noter mercredi le procès du ministre Alain Griset, qui comparait pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation de patrimoine. Et à l'international, la semaine qui vient sera marquée par l'ouverture mardi à New York de l'Assemblée générale des Nations Unies, une assemblée qui sera impactée par l'affaire des sous-marins australiens. Bertrand Galichet.
L'incident diplomatique entre la France d'un côté, les États-Unis et l'Australie de l'autre donne une tournure différente au débat général qui commence mardi à New York, point d'orgue de l'Assemblée générale des Nations Unies. Bien avant le début de la crise entre Paris et Washington, Emmanuel Macron avait décidé de ne pas faire le déplacement. C'est donc Jean-Yves Le Drian qui viendra exprimer la colère de la France. Les États-Unis espèrent pouvoir parler de ce dossier avec les représentants français, y compris lors de cette Assemblée générale de l'ONU, parallèlement à l'échange téléphonique prévu dans les prochains jours entre Joe Biden et Emmanuel Macron. En marge de l'Assemblée générale, la diplomatie française s'intéressera aux pays de la zone Indo-Pacifique, sujet central de la crise, mais un rendez-vous interministériel à Troyes avec l'Inde et l'Australie a été annulé par la France. Cette réunion mondiale de l'ONU a lieu sous une forme hybride pour cause de pandémie. Plusieurs dizaines de dirigeants venus de toute la planète seront présents, d'autres s'exprimeront en visioconférence.
Et on terminera la semaine avec des élections législatives en Allemagne. Voilà pour l'agenda de la semaine. Dans l'actualité également de cette semaine, une sorte de festival de Cannes, mais avec des poils. Le trophée des chiens héros édition 2021 a été décerné par la centrale canine. 17 chiens viennent de recevoir non pas une palme, mais une patte d'or. Une cérémonie dans l'indifférence générale, alors qu'ils mériteraient le tapis rouge pour beaucoup d'amoureux des bêtes. Recherche de personnes disparues dans les décombres, les avalanches, recherche d'explosifs en cas de menace d'attentat, chiens de thérapie ou chiens médiatiques. Il nous sauve la vie. Alexandre Balzer est vétérinaire à Vichy dans l'Allier. Il est aussi président de la centrale canine, un président vétérinaire qui reste bluffé à chaque remise de trophée.
Je suis à chaque fois bluffé parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils aient des capacités aussi importantes. Le chien est capable de tout. On connaît les chiens de décombre. Mais un chien qui détecte une maladie, ils sont capables de détecter un cancer du poumon. Parce que le cancer va émettre des petites molécules que le chien est capable de sentir à travers votre respiration. Vous avez 5 personnes qui respirent, et bien il va stopper devant la personne qui a le cancer du poumon. Un chien est capable de détecter le paludisme. Parce qu'on peut détecter chez des enfants qui sont atteints du paludisme, en particulier en Afrique, avec l'odeur de leurs chaussettes. Vous mettez un tas de chaussettes, le chien il va détecter quelle est la chaussette qui appartient à un enfant qui a le paludisme. Dans certains endroits, les chiens sont vraiment utilisés pour ces fonctions-là. Autre exemple, chaque année, beaucoup de soldats sont victimes d'un syndrome post-traumatique et les chiens sont capables de les aider à reparticiper à la vie sociale.
On leur envoie des chiens pour cela.
Voilà, on leur prête des chiens. Ruby et Pollux, ce sont deux chiens qui ont été primés au trophée parce que justement, ils ont cette capacité-là de travailler avec l'armée.
Puis alors, il y a encore plein de domaines.
Il y a énormément de domaines, des domaines qu'on ne soupçonne pas. Dans le système judiciaire, il y a aussi des chiens qui aident les gens à pouvoir s'ouvrir, expliquer ce qui s'est passé, un viol, des choses compliquées pour des enfants. Ils peuvent mieux en parler en s'occupant du chien.
Il y a des chiens dans les palais de justice.
Il y a des chiens dans les palais de justice, il y a même des chiens à l'école quand vous avez du harcèlement pour que justement l'enfant puisse parler à l'infirmier ou au médecin qui est en face. Eh bien, il y a des chiens, on en a aussi primé un, c'est un dalmatien. Il aide les enfants à pouvoir expliquer ce qui s'est passé.
Autre capacité qui vous bluffe.
Des chiens, des Terre-Neuve au bord de plans d'eau. Eh bien, ils vont intervenir pour aller sauver des personnes qui sont en train de se noyer, apporter des cordages dans des endroits où le bateau ne peut pas passer. Le chien va pouvoir passer entre des branches, entre des obstacles et venir à votre rencontre pour qu'il vous ramène au bord.
Mais je suis évanoui, je suis...
Eh bien, si jamais vous êtes évanoui, le chien a une capacité de vous prendre au poignet, de vous ramener. Il vous tient par la gueule.
La chose la plus bluffante...
À titre personnel, c'est un chien qui était chien visiteur dans un hôpital. La personne très âgée, déconnectée du monde, a vu le chien, s'est mise à pleurer, a caressé le chien alors qu'elle ne bougeait quasiment plus et a esquissé quelques mots.
Alors qu'elle ne parlait plus.
Elle ne parlait plus, depuis plusieurs mois. Et ça m'a marqué. La capacité du chien à aimer l'homme, c'est peut-être ça qui est le plus bluffant dans l'histoire.
Et bravo à Lucky, Pollux, Ruby et Pollen, parmi les 17 chiens récompensés, les 17 chiens d'exception. Et bravo aussi à tous les petits bulldogs français, des chiens d'exception également. C'est mon actu. Sandrine Houdin au générique de cette édition. Mathias Alléon et Ludovic Asselot en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal. Avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Rachid Zourdani et Sébastien Donat. Merci à l'équipe et merci à vous d'avoir suivi ce journal. La météo dans un instant.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps,
Pour ma santé, c'est via santé.
Jean-Michel Golinski.
Demain, nous continuons sur la lancée d'un temps souvent perturbé sur le pays. Les éclaircies les plus larges et durables seront pour les pays de la Loire, la Basse-Normandie et la Bretagne, et à l'autre extrémité pour le bassin méditerranéen où le vent va nettement faiblir. Ailleurs, il faudra souvent composer avec les averses, les pluies, voire les orages. Des orages qui vont se développer en cours d'après-midi, du Limousin aux Pyrénées et sur les Alpes. Des averses localisées vont circuler sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine, également du Grand Est à la frontière belge, tandis que sur un axe Franche-Comté-Dauphiné-Auvergne, Centre-Val-de-Loire-Bourgogne et du bassin parisien à la Basse-Normandie et à l'Artois, là le parapluie va servir toute la journée avec des pluies plus soutenues de la Seine aux Alpes. Le tout dans des températures pratiquement identiques à celles d'aujourd'hui. Notez que mardi, la moitié sud verra encore passer quelques averses, tandis que plus au nord, le soleil sera rayonnant.
Jean-Michel Golinski de Météo France.